Consommation, droit, santé, éducation, culture. NC La Première, ligne directe.
Et bienvenue dans cette seconde partie de Ligne Directe où aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Julien Barré, un poète linguiste passionné qui explore les méandres de la langue française et de l'expression orale. Julien, bonjour.
Bonjour Margot.
Merci d'avoir accepté notre invitation juste avant votre retour en métropole. On est super content de vous recevoir aujourd'hui.
Moi aussi.
Alors, vous vous définissez comme un poète et un linguiste. Comment ces deux dimensions se complètent-elles dans votre travail exactement ?
Ce qui m'intéresse, c'est la langue. Et donc, le côté linguiste, c'est d'analyser la langue de manière assez rationnelle. La rhétorique, l'art de parler, la lexicologie, les mots, le vocabulaire.
On peut le résumer ça comme la science du langage.
Voilà, exactement. Et c'est comme ça qu'on l'appelle parfois à l'université, la linguistique, la science du langage. Et le côté poète, c'est le côté pratique d'animer des scènes ouvertes, de faire moi-même de l'art oratoire, de la poésie, de faire des conférences, des performances et d'écrire, c'est-à-dire d'illustrer en fait la théorie de la linguistique à travers une pratique. Et je ressaisis donc ce mot de poète, de poésie, dans son étymologie grecque. Poiein, qui veut dire créer, fabriquer, comme les troubadours, ça vient de l'occitan trobar, qui veut dire trouver. Donc je suis dans le concret de qu'est-ce qu'on fait avec la parole.
On la trouve et après comment est-ce qu'on la...
On la prend.
Comment est-ce qu'on la travaille ?
On écrit, on parle et comment on fait pour se réinventer et pour créer à travers la langue.
Et comme vous l'avez dit, vous animez régulièrement des scènes ouvertes, notamment celle du cabaret du Chat Noir.
Oui, c'est ça.
À la Halle Saint-Pierre. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a conduit justement à créer ces espaces d'expression poétique ?
Au départ, j'étais un peu comme un linguiste du rap et du slam, donc plus dans la théorie. Et au bout d'un moment, il est devenu... mais je faisais déjà du rap et du slam, mais pas officiellement. C'est comme ça que je me présentais comme un linguiste après avoir été journaliste. Et en fait, quand vous êtes en train de plonger dans cette machine, dans cette machinerie du langage, le mieux, c'est quand même de la mettre en application. Et le fait de traîner dans l'univers du slam, par exemple, fait que en fait, vous êtes amené à vous-même à prendre la parole. Comme une soirée slam, c'est une scène ouverte où il y a du public, les gens sont dans la salle, puis après montent sur scène. Et moi-même, j'aime bien mettre les gens en relation, faire des liens entre des univers différents. Donc, animer une scène de poésie, c'est évident. Pour réunir différents univers qui ne se côtoient pas forcément, du style le clown, le conte, la poésie, le rap.
Dans les arts vivants, en général,
réunir
créer
des gens,
liens, quoi.
Exactement, c'est ça.
Tout à fait. Et justement, vous parliez de votre parcours académique et de votre carrière de journaliste. C'est un parcours qui est quand même assez impressionnant, hein. Vous avez un DEA en langue française à la Sorbonne et un master de journalisme à l'Institut français de presse. Est-ce que ces formations ont influencé votre approche de la langue et de la poésie ?
Oui, le côté journaliste, c'est intéressant parce que en venant de la Sorbonne, je pensais savoir écrire et j'ai finalement appris dans cette école de journalisme public de l'Institut français de presse qu'il y avait un style journalistique et que ça consiste par exemple à enlever les adverbes, les adjectifs, tout ce qui est inutile pour aller à l'essentiel. Et je vois un point commun entre le poète ou la poétesse et le ou la journaliste, c'est d'essayer de réunir. On est pris dans des tonnes de jargons différents. On appelle ça des sociolectes. Des gens parlent en produits, process, culture client dans l'entreprise, à la cité, ils parlent en verlan ou avec des emprunts qu'on ne connaît pas. Dans l'administration, vous avez ce lourd langage administratif. Et le poète ou le journaliste, ils essayent de trouver dans la langue une essence ou quelque chose d'essentiel qui permet de partager et de se comprendre.
J'aurais pas dit mieux. Et vous avez publié une douzaine de livres, hein, sur des sujets variés, ouais, allant de la langue française à l'humour, en passant par la musique. Parmi eux, est-ce qu'il y en a un qui vous tient le plus à cœur ?
Celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui qui va sortir dans un mois et qui s'appelle Retour à la parole. Et c'est aux éditions Actes Sud, qui est une belle maison.
Très belle maison d'édition.
C'est un livre pour lequel j'ai dû relire chaque phrase, peser chaque mot de chaque phrase pour essayer de mettre en perspective donc un peu le sujet pour lequel vous me recevez, c'est-à-dire l'art oratoire. Pourquoi l'art oratoire revient, les concours d'éloquence, le slam, les réseaux sociaux et tout ça. Et j'ai essayé d'articuler cette pensée de manière la plus immédiatement compréhensible, quoi, dans des phrases assez simples, tout en ayant fait un travail de mise en perspective qui, j'espère, va permettre à des gens de comprendre pourquoi il y a cette mode des concours d'éloquence, pourquoi il y a ce retour à la parole et comment ça puise dans toutes nos traditions de partout. On voit le conte, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il y a les troubadours et tout ça. Et quel est l'enjeu de ce retour à la parole? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut se libérer? Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut soigner? Donc, c'est un de mes livres les plus ambitieux qui va sortir. Ça s'appelle Retour à la parole et ça sort le 7 avril.
Ah oui, donc dans moins d'un mois, là, on compte.
Ah bah ouais, je suis un peu décalé maintenant.
On compte en deux semaines, là. Dans deux semaines à peu près.
Ah non, c'est le 7 mai.
Ah oui, bon ben bah alors moi non plus je sais pas compter, donc voilà.
C'est dans un mois et demi.
Ok, bon ben bah dans tous les cas, acte sud, retour à la parole, on note. Et vous êtes venu sur le territoire justement, parce que vous êtes venu avec l'Alliance Champlain qui fêtait ses 40 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu avant qu'on revienne à vos écrits et tout ça, ce que vous avez fait sur le territoire, ce qui vous a plu? Est-ce que c'était votre première visite sur le Caillou? Comment est-ce que vous avez... Comment s'est passée cette visite? Combien de temps vous êtes resté exactement?
En tout, je repars demain soir et ça aura fait 12 jours complets. C'est Daniel Mirou qui a créé l'Alliance Champlain il y a 40 ans, donc dont on fête le 40e anniversaire. C'était mercredi dernier à l'annexe de la bibliothèque Bernheim.
Joyeux anniversaire, l'Alliance Champlain.
Avec Simane, notamment, on a fait des performances de slam. Je suis venu pour la semaine de la francophonie et de la langue française, rencontrer grosso modo les acteurs culturels de la Nouvelle-Calédonie. J'ai rencontré pas mal de gens différents. Je suis allé faire des ateliers dans les bibliothèques auprès des enfants de CM1, CM2 du côté du Mont d'Or. Je suis allé au centre pénitentiaire de l'île Nou pour faire un atelier avec des détenus, je crois, qui sont en attente de jugement. Ils étaient 7 ou 8 et on a fait un atelier slam. J'ai vu aussi des formateurs et des spécialistes de l'art oratoire et des gens de théâtre à la Maison de la Parole. Je passe parce que tous les jours, j'ai vu des gens différents, des cercles de poésie, des slameurs. Au départ, avant de venir, j'avais contacté Paul Wameau, puisque le slam, c'est une grande famille. On se connaît entre l'Afrique, l'Europe, ici la Nouvelle-Calédonie.
Tous les milieux francophones, en fait, tout simplement.
J'ai rencontré le conteur Sylvain Lornier, la slameuse Wakfu. Donc Simane, avec qui on a partagé quelques scènes lors de cette semaine. Et donc voilà, j'ai pas eu le temps de souffler, mais c'était génial. Et il y a même un il s'appelle Canac Blanc, Alain, qui m'a emmené faire un tour du sud de l'île hier en voiture.
Comment vous avez trouvé?
C'était mon seul jour de tourisme. J'ai trouvé ça magnifique, désert. La situation telle que moi je la vois, elle est pas si dramatique parce que c'est pas les mêmes émeutes que j'ai connues à Paris, dans mon quartier. Il n'y a pas eu la même chose, mais tous les gens se saluent. Et Alain, donc, il m'a emmené hier, il m'a dit qu'il avait fait un tour de l'île, il y a 2 mois, et que partout où il était allé, ça s'était bien passé. Je vois des gens qui veulent parfois plus trop sortir la nuit. Et puis tellement de gens différents qui ont tellement d'appréhensions différentes des événements qui se sont passés en mai dernier. Et que je ne peux pas décorréler d'une histoire assez difficile telle qu'on peut la lire, l'histoire de la Nouvelle-Calédonie au XIXe siècle, avec des réserves, avec des bagnards, avec toutes sortes de gens différents. Donc j'essaye d'absorber, je ne connaissais pas grand-chose en arrivant, j'en connais juste un peu plus, mais je trouve que c'est un pays qui est beau et qui est enthousiasmant, et dont on voit des stigmates de choses qui sont calcinées, parce qu'il y a eu ce que certains appellent des émeutes, d'autres des exactions, d'autres une insurrection.
Et on laissera le temps trouver le terme exact pour pouvoir définir justement cette période si particulière et si traumatisante pour certains. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas été capable linguistiquement de trouver un mot et de se mettre tous d'accord sur l'étymologie même d'un mot qu'on emploierait pour pouvoir caractériser cette période. Pour en revenir à la francophonie, comment est-ce que vous voyez la place de la francophonie en Nouvelle-Calédonie? Après vos 12 jours sur le territoire.
Je vais revenir juste à la langue. En fait, si j'ai bien compris, il y a une trentaine de langues kanak qui sont parlées ici, qui ne présentent pas toute une intercompréhension entre les locuteurs. Donc si vous parlez le yaï et que vous parlez des langues alentour de Nouméa, vous n'allez pas forcément vous comprendre. Il y en a certaines qui offrent une intercompréhension, mais c'est donc la langue française qui le plus souvent permet, si j'ai bien compris, aux locuteurs de toutes les îles, de tout l'archipel du pays, entre guillemets, de se comprendre. Et c'est donc un rôle extrêmement important. Et ce que j'ai noté aussi, c'est des variantes, c'est des calédonismes, c'est la manière dont la langue française se colore ici, de la même manière que je fais un travail sur le camfranglais, qui est la langue du Cameroun, qui est un mélange d'anglais, de français et de langue camerounaise, et qui est la seule langue qui a permis à des gens, au Cameroun, il y a carrément 280 langues officielles, de parler ensemble, une variété orale et créolisée du français. Ici, c'est une langue française qui est assez standard, mais qui se colore avec des expressions que j'aime bien noter, avec beaucoup de troncations. C'est le fait de couper des mots comme mon frère, ma sœur, masse.
Exactement.
T'as le tout, et ça me fait plaisir de saisir de nouveaux mots, quoi, de nouvelles sonorités ici.
On avait un super dictionnaire de la langue calédonienne qui avait été publié, je crois. Je n'ai plus.
On me l'a offert en deux volumes.
Oh.
Ouais.
Oh,
c'était à la bibliothèque. C'était parce que j'ai formé aussi les jeunes de l'Institut de formation des maîtres. C'était un très beau moment. On a fait des scènes ouvertes et tout le monde a pris la parole. Et on a chanté, etc. Et ils m'ont offert un certain nombre de bouquins. Et moi aussi, je leur en ai offert. On a fait des échanges. On a fait une coutume, mais avec des livres.
C'est beau. C'est une très jolie manière de représenter notre pays et nos cultures, qui sont toutes diverses et variées, mais qui se rejoignent en un point, celui d'être ensemble. Ne l'oublions pas. Et juste, je voulais revenir sur votre projet Apprends les bails, qui vise à répertorier les nouveaux mots utilisés par les jeunes. Qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre cette démarche? Est-ce que vous avez rencontré des surprises en chemin? Et est-ce que vous pensez que ce serait nécessaire de faire la même chose au pays?
Oui, ce sont des ateliers lexiques que je développe. Ce n'est pas encore très courant. Et les gens qui font le dictionnaire, au Robert, au Larousse, par exemple, ils ne le font pas encore beaucoup, d'aller dans des classes, dans des lieux, pour recueillir les mots. On pourrait faire un lexique de Nouvelle-Calédonie, la première, pour voir quels sont les mots que vous employez dans votre univers à vous. Et donc, partout, d'aller recueillir les nouveaux mots. Donc là, je l'ai fait pour un podcast à l'université à Villetaneuse, dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Juste avant, j'avais été appelé par deux profs qui ne comprenaient pas ce que disaient leurs élèves autour de Grigny, à Ris-Orangis. Vraiment, elles ne comprenaient pas. Donc, parfois, c'est utile pour qu'il y ait un dialogue intergénérationnel, bien que l'argot, parfois, serve aussi à ne pas être comprise des autres. Mais c'est un travail qui est bien perçu par les jeunes gens à qui je pose des questions. Et je pense qu'il est bien perçu de manière générale. Et à mon avis, les linguistes pourraient faire davantage ce travail concret, vraiment utile, de faire des petits dictionnaires, des petits lexiques, c'est-à-dire qu'on prend la méthode des gens qui font le dictionnaire. On prend un mot, je vais prendre Taltoul, je vais dire est-ce que c'est une interjection, un verbe, je vais essayer de le définir, on va dire c'est la troncation de à tout à l'heure, puis on va donner un exemple et une étymologie, etc. Et à la fin, vous avez un recueil de mots qui permet de vous donner une image un peu de vous, des sonorités, etc. Et c'est ludique et intelligent, je trouve.
Clairement. En tout cas, ça aurait une utilité très, très importante, surtout au pays, on le rappelle. Et votre intérêt pour la rhétorique vous a conduit à analyser des figures de style et des punchlines. Selon vous, c'est quoi une punchline réussie?
Alors déjà, je vais vous donner la définition de la punchline, parce que je suis assez fier. C'est moi qui ai énoncé la définition du petit Robert en ligne. C'est une réplique percutante destinée à marquer les esprits. Donc, il y a trois dimensions dans cette... Il y a une dimension rhétorique, une réplique, une formule bien formulée. Percutant, que c'est une dimension rythmique. Et la dimension sociale, c'est ma réponse à la question. Il faut que ça marque. Donc, ça peut être une phrase qui a l'air de rien. Ça peut être une super figure de style avec un double sens ou une allusion. Et ça peut être juste une phrase comme dans L'Arme fatale. Il y a le personnage qui dit « Je suis trop vieux pour ces conneries ». Mais c'est parce que cette phrase, elle a eu un écho à un moment donné.
On le dit encore.
Et on le dit. Et parce que la phrase a un écho et elle touche quelque chose. Elle résonne soit dans l'époque, soit dans l'esprit des gens.
Et puis ça permet aussi de continuer de faire évoluer la langue. Et c'est ce qui caractérise une langue vivante, hein. C'est son évolution constante, rappelons-le quand même. Et aujourd'hui, on a tendance à, en tout cas dans des grandes universités ou dans des grandes écoles, à amoindrir un petit peu l'impact que pourrait avoir l'évolution de la langue en fait, sur le quotidien. Et rappelons-le, ce qui caractérise une langue de vivante, c'est son évolution. Donc avec toutes ces troncations, avec toutes ces punchlines qui peuvent arriver et tout ce qui va avec, en fait. Donc le rap, le slam, le verlan, tout ce qu'on pourrait employer aujourd'hui fait partie de la langue vivante, comme le québécois d'ailleurs, parce qu'on a tendance à dire que le québécois Bien est sûr. Une très très vieille langue et qu'au Québec, ils sont restés bloqués ailleurs, enfin dans une autre époque. Or, non, pas du tout. Ils l'ont fait évoluer avec leur temps, avec leurs mœurs. Mmh. Et c'est ce qui caractérise encore le français québécois de vivant, en fait.
Bien sûr.
Ouais, c'est ce qui rentre dans la francophonie.
Moi, je promeux le rap, le slam, effectivement, le stand-up. Ça fait beaucoup d'anglicisme avec punchline, donc je voudrais quand même lever une confusion possible, c'est qu'il n'y a pas lieu d'opposer les formes actuelles du français. La punchline, c'est juste une nouvelle formulation de ce qu'on appelait dans l'Antiquité ça a pu s'appeler des mots d'esprit, ça a pu s'appeler des proverbes, des bons mots. Et à l'époque, il y avait un latin qui envoyait des pics comme ça, on appelle ça aussi des pointes. Et à chaque fois, on trouve un nouveau mot, des épigrammes. Je pensais à Martial qui envoyait des épigrammes. Et le fait de mettre en valeur les nouvelles formes, comme j'essaye de le faire, de parler, les nouveaux modes d'art poétique ou d'art humoristique, c'est pas pour opposer. J'aime bien Balzac, j'aime bien Proust, et je trouve que mettre en perspective notre façon de parler dans le cadre de la langue générale, c'est une manière de réfléchir. Et quand je vais à la fac et je demande aux jeunes étudiants, étudiantes, c'est quoi vos nouveaux mots, c'est quoi les bails, c'est quoi les expressions, les troncations, les emprunts, ils me répondent, elles me répondent d'une manière extrêmement soutenue. Donc il n'y a pas d'opposition binaire entre l'argot et la langue soutenue. En fait, l'important, c'est de maîtriser tous les registres de langue, de savoir s'exprimer, de mettre en valeur ses idées et à travers la syntaxe, la capacité à s'exprimer.
Et avant, notre émission touche bientôt à son terme. Avant de conclure, quel conseil est-ce que vous pourriez donner à ceux ou celles qui souhaitent s'initier à la poésie ou à l'art de l'éloquence ?
En général, c'est presque exclusivement de la pratique. C'est comme du sport. Et d'ailleurs, dans l'Antiquité, il y avait des exercices qui s'appelaient les progymnasmata. C'est des exercices pour compter, mais c'est comme de la gymnastique. C'est comme les gymnasmata. C'est d'exercer. Donc, c'est de prendre la parole. Dès qu'on en a l'occasion, prendre la parole. Si on écoute des humoristes, des discours, des rappeurs, c'est se les repasser. Essayer de tenter soi-même d'utiliser telle figure de style ou tel mot et de pratiquer soi-même sans... En fait, l'important, c'est surtout de débloquer une capacité de parler. Et parfois, on est empêché, ça s'appelle le syndrome de l'imposteur.
Tout à fait, la timidité, ou même quand on ne se sent pas suffisamment légitime pour pouvoir s'exprimer et en parler.
Alors que tout le monde peut parler. La parole, c'est gratuit, c'est à la disposition de tout le monde, et il faut juste débloquer quelque chose pour s'autoriser à parler.
Tout à fait. Et si vous aviez un auteur à conseiller aux gens qui souhaiteraient potentiellement s'initier à l'art de l'éloquence ou à la poésie ?
Je pense que Jacques Prévert, qui est pas mal enseigné un peu, enfin qui sert d'exemple parfois dans les écoles,
On apprend souvent ses poèmes. Hein.
Ouais. Jacques Prévert a ceci d'intéressant, sa langue, elle est assez orale. C'est une langue qui est plutôt naturelle, parce que de la poésie, on a parfois une image un peu éthérée de choses avec des alexandrins du XVIIe siècle, alors que la poésie, à l'origine, c'est de la poésie orale. Dans toutes les civilisations, la poésie, c'est une parole. En plus, c'est une parole pour se souvenir de
certains... Tout à fait. On sait aujourd'hui quand même que la prose est quand même arrive pas mal sur le devant de la scène. Les jeunes en parlent de plus en plus. On a des auteurs comme Rupi Kaur qui sont de plus en plus lus et qui écrivent en haïku ou sous forme de prose et de tout petits poèmes qui sont très intéressants et qui permettent aux jeunes générations de s'initier à ces... à ces merveilles de la langue, en fait, car elles sont extrêmement poétiques et en même temps, il y a une dimension très actuelle et on apprend énormément de choses.
Il y a de la poésie dans la chanson, il y a de la poésie dans certaines choses qu'on entend malgré nous, il y a une poésie parfois dans certains slogans, dans certains proverbes même, de juste essayer de s'approprier des proverbes, de les ressaisir, de les modifier. La poésie, elle est omniprésente. Après, c'est un regard, c'est une manière de concentrer son regard ou son oreille sur certaines choses qu'on apprécie, même sur certaines expressions de la langue.
surtout. Merci, Julien Barré, pour cet échange enrichissant. Hein. Votre passion pour la langue et votre engagement à la rendre vivante et accessible sont clairement inspirants. On vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets à venir et on espère vous retrouver bientôt sur scène ou à travers vos écrits.
Merci beaucoup pour cette invitation.
Merci à vous et merci à tous. Belle journée à vous sur La Première.
Consommation, droit, santé, éducation, culture. NC La Première, ligne directe.